Nus dans Soins sonores, l'émission où les futurs soignants questionnent les professionnels qui les ont précédés. Aujourd'hui, l'émission sera animée par Alix et Bertille, étudiantes infirmières en troisième année. Notre invitée du jour, quant à elle, s'appelle Lucie. Elle est stomathérapeute, une spécialité méconnue et pourtant essentielle dans bon nombre de prises en charge de patients. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
J'aurais une première question à vous poser. Quand vous annoncez que vous êtes stomathérapeute, les gens s'imaginent quoi en fait ?
Ça, c'est une bonne question. En fait, ils savent pas du tout à quoi s'attendre en règle générale.
Un médecin ?
Même les médecins, certains chirurgiens savent, mais même pas tous.
Ils pensent que vous êtes leur confrère ?
Non, pas du tout. Alors, pas du tout, du tout. Il y a concrètement que les chirurgiens digestifs qui savent concrètement ce qu'est une stomathérapeute. Mais en général, on nous appelle les popoches thérapeutes, d'ailleurs. Et effectivement, il faut qu'on explique. Et il y a très souvent un amalgame avec les stomatologues qui, là, soignent les dents et rien à voir avec notre profession.
Première question.
Alors, bonjour. Donc, moi, j'aimerais vous demander, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours avant de devenir stomathérapeute ?
Oula. Donc, je suis diplômée infirmière depuis 2006. Ensuite, j'ai fait un peu d'intérim. Hein, à l'époque, on pouvait faire tout de suite de l'intérim directement. Ensuite, j'ai travaillé en EHPAD un petit peu. Après, j'ai fait du centre de soins. Ensuite, je suis devenue soignante à l'HAD, donc en hospitalisation à domicile. Je suis passée par la case infirmière de coordination, où j'ai d'abord passé en même temps mon DU pléicicatrisation. Et par la suite, j'ai passé mon diplôme de stomathérapeute. Et en fait, j'ai créé le poste de stomathérapeute au sein de l'HAD.
Et du coup, qu'est-ce qui vous a amené à faire cette spécialité ? Est-ce que vous aviez déjà entendu parler ou...
Alors, c'est plus par rapport au rapport avec les plaies, où j'ai commencé à m'intéresser au cursus. Parce que, en fait, on se rend compte que dans la formation initiale et même tout au long du parcours infirmier, on n'est pas assez formé en plaie, concrètement. Donc, c'est ça qui m'a intéressée. Et ensuite, j'ai poussé plus sur, effectivement, tout ce qui est stomie digestive ou urinaire. Et ça a complété, et voilà.
Ok. Et du coup, cette formation, elle dure combien de temps, à peu près ?
Alors, c'est une formation qui est concrètement en 3 fois 3 semaines. Alors, il y a 4 écoles de mémoire en France. Donc, il y a Paris, Lyon, Nîmes et Bordeaux. Et celle de Paris et de Lyon, en fait, c'est la même école, mais qui ont 2 établissements. Et 3 fois 3 semaines détachées complètement, avec partie théorique et puis partie pratique aussi, avec des terrains de stage.
Il y a un examen final ?
Oui, bien sûr.
Un petit mémoire à rendre ?
Alors, ça a changé entre-temps, mais oui, effectivement, il y a entre chaque session, en fait, il y a des examens écrits. Et ensuite, c'est pas un mémoire, mais c'est des cas cliniques, en fait, à présenter. Et ensuite, cas concrets, direct, avec photos, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? Si vous avez un patient qui arrive avec ce type de plaie, ce type de poche, cette problématique-là, qu'est-ce que vous faites ?
Les terrains de stage vous amènent où ? En chirurgie, peut-être, vous en parliez ?
Alors, il y a un peu tout, en fait, en terrain de stage. Moi, la formule que j'ai connue à l'époque, c'était effectivement tout ce qui était chirurgie digestive, uro. On allait aussi au bloc. Après, on pouvait aller dans des unités de consultation aussi, dans les unités d'urologie pour les bilans urodynamiques. Enfin, en fait, ça offre tout un panel, hein, parce que la stomathérapie, c'est... tout ce qui est effectivement poche, stomie, uro, dige, c'est tout ce qui est l'incontinence urinaire. Après, il y a tout ce qui est cicatrisation. Et l'école où je suis allée, il y avait un volet aussi sur le cancer du sein.
Finalement, j'ai l'impression qu'on vous rajoute des choses au fur et à mesure, non ?
Oui, on nous rajoute des choses au fur et à mesure. Et puis, c'est ce que je disais, le fait d'être pas forcément bien formé aussi sur tout ce qui est plaie, cicatrisation, parce que ça en fait partie aussi, ben, on appelle très facilement la stomathérapeute, en fait. C'est une profession qui peut, avant qui était vraiment cataloguée dans le service de chirurgie, sauf que maintenant, en fait, c'est en train de se développer. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a peu d'écoles, mais ça peut se développer. Ben, nous, au sein de l'HAD, là, c'est ce qui s'est fait. au sein des prestataires, au sein de services de consultation de plaies. Enfin, ça, c'est vraiment un panel qui se développe.
Et du coup, pour faire cette spécialisation, rentrer dans une école, il y a un concours où,
Alors non, il n'y a pas un concours, c'est vraiment sur dossier en fait. Donc okay. Il faut que l'inscription corresponde à un projet d'établissement en fait. Donc au sein de votre établissement, donc je sais pas où vous allez travailler, il faut que ça corresponde à un projet où on va dire bah, je peux rencontrer ce type de patient, combien de patients je vais rencontrer et qu'est-ce que je vais apporter à ces patients-là en fait.
Et ça vous pousse à travailler dans quelle structure en général ?
Très souvent, c'est chirurgie digestive, chirurgie urologique. Okay.
Ou HAD.
Ou HAD, pour ma part, HAD.
Question suivante.
Concrètement, ça consiste en quoi votre métier ? Comment vous décrirez une journée en tant que stomathérapeute ?
Alors, il n'y a pas une journée qui se ressemble. Ça c'est clair. Surtout avec l'HAD, concrètement, c'est vraiment propre à chacun. On va au domicile des patients et tous les jours, c'est la découverte, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on va trouver en arrivant chez le patient ? Donc, bien souvent, moi, j'interviens chez les patients stomisés qui, du coup, ont des problématiques de fuite parce qu'entre ce qui est mis, par exemple, à l'hôpital en post-opératoire et ce qui est mis après à la maison, bah, des fois, il peut y avoir des déviances dans les soins. Il peut y avoir aussi des déviances de la part du patient, hein, concrètement, dans l'utilisation du matériel. Il peut y avoir un tas de fuites, hein, concrètement aussi. Et c'est de réadapter le matériel et puis c'est de faire l'éducation aussi avec le patient s'il le désire, parce que tous les patients ne sont pas forcément dans l'objectif de se faire éduquer à leur stomie. Et donc, c'est toute cette approche aussi à faire. Donc, il y a ça. Et pour le volet cicatrisation, c'est concrètement... une plaie qui se détériore, pas de possibilité de consultation rapidement, on va au domicile, on voit ce qui se passe, on apporte les éléments et on essaye de rectifier le tir jusqu'à une conduite à tenir médicale. En fait.
Que nos auditeurs comprennent, finalement, vous rencontrez quand les patients ? Au moment de l'annonce ou juste après qu'ils aient été opérés ?
Alors moi, dans le cadre de l'HAD, je les rencontre après. En général, ils ont été opérés et je les rencontre après. Mais l'astomathérapeute, en règle générale, peut aussi les rencontrer avant. Par exemple, en cancérologie, ça arrive très souvent dans les dispositifs d'annonce où ils expliquent que le chirurgien explique qu'il y aura potentiellement une poche. Il y a une consultation avec l'astomathérapeute qui va expliquer ce que c'est, potentiellement montrer le matériel, expliquer un peu la journée type d'un patient stomisé aussi, hein, concrètement. Et va faire aussi, en amont du bloc opératoire, le repérage pour localiser au mieux la stomie.
Alors, des fois, c'est juste une probabilité. Vous intervenez à titre informationnel et les patients ne sont pas sûrs d'en avoir une ?
Effectivement.
Waouh !
Parce que c'est un risque, en fait. Dans certaines chirurgies, c'est un risque d'avoir une stomie. Au moment où le chirurgien ouvre, il n'est jamais sûr à 100% de ne pas faire une stomie. Donc, c'est quelque chose d'important parce qu'il faut quand même l'annoncer aux patients. Quand vous vous réveillez d'un bloc opératoire, et puis, vous êtes appareillé, vous avez une stomie. En gros, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que ça génère une incontinence. Et socialement, une incontinence, c'est horrible, en fait. On dit toujours, on met un enfant à l'école parce qu'il est continent et qu'il est propre, sinon ils ne vont pas à l'école. Pour les adultes, c'est pareil, en fait. Et effectivement, en tant que stomathérapeute, vous pouvez intervenir aussi bien, alors je pense, en pédiatrie néonate, parce que c'est pareil, hein, il y a des problématiques digestives à ce niveau-là, tout comme il y a des problématiques adultes, en fait.
L'enjeu est très fort, alors, durant cette première rencontre ?
Oui. Il faut que le courant passe bien, parce que, concrètement, c'est un lien que vous allez vraiment tisser avec le patient à ce moment-là. La première rencontre, elle est importante, et il faut vraiment pouvoir accrocher, en fait, avec le patient, et puis partir de ses questions à lui. Il ne faut pas commencer à dire, vous allez avoir une poche, ça va être comme ça, ça va être comme ça, ça va être comme ça. Il faut déjà savoir qu'est-ce que lui sait, qu'est-ce qu'il comprend et qu'est-ce qu'il veut savoir. Parce que sinon, c'est trop d'informations. En général, les stomies, c'est souvent dans une pathologie cancéreuse, très souvent. Et après, il y a les maladies de Crohn, les maladies inflammatoires. Donc, c'est quand même, dans le cas du cancer, le patient, il vient d'apprendre qu'il y a un cancer, qu'il va avoir son parcours. Et en plus, vous lui rajoutez une stomie.
Donc, de manière générale, j'imagine que les patients, ils acceptent pas facilement la prise en charge qui va poursuivre.
Alors, avec la stomathérapeute, en général, après, ça se passe bien. Ça se passe bien. C'est plutôt, effectivement, c'est la violence de l'annonce qui est compliquée pour eux. Après, j'ai envie de dire, nous, on a un support pour eux en plus. Mais au début, on n'est pas leur priorité. Ça, c'est clair. Mais c'est j'ai l'annonce du cancer, paf, j'ai une annonce d'une stomie. Choc total, en fait.
Est-ce que vous faites un peu de soutien psychologique, du coup, pour aider ces patients à vivre avec leur stomie ?
Alors, je pense qu'en tant qu'infirmière, pas que stomathérapeute, on fait tous et toutes du soutien psychologique, ça, clairement, oui. Après, moi, j'ai la chance dans mon service d'avoir une psychologue qui est complètement détachée à temps plein. Et concrètement, moi, là où j'accompagne les patients, je leur propose tous les... Alors, c'est toujours une proposition, hein. C'est jamais d'emblée, on met la psychologue. C'est toujours une proposition. Ils veulent, c'est bien. Ils ne veulent pas, on ne va pas les forcer. Par contre, là, on essaye de les accompagner au mieux.
Okay. Et du coup, vous êtes associé aussi à un médecin pour certains suivis, pour les prescriptions, tout ça.
Alors, en HAD, c'est un peu particulier. On a nos médecins coordinateurs qui sont toujours là sur place et qui nous orientent, qui nous donnent un avis médical. En HAD, c'est toujours le médecin traitant qui est responsable de son patient. Alors, ce qui devient plus compliqué actuellement, c'est qu'on a de moins en moins de médecins traitants. On a des patients qui n'en ont même plus. Donc, c'est nos médecins coordinateurs qui prennent le relais. Après, c'est aussi pouvoir se référer avec les médecins prescripteurs. Donc, c'est de rappeler un chirurgien, rappeler un médecin oncologue. Enfin, voilà, c'est vraiment d'avoir du lien et tisser du lien pour pouvoir avoir des avis si problème.
Vous pouvez prescrire certaines choses ?
Alors, je suis soumise, comme aux infirmières, à la prescription des pansements et des dispositifs médicaux, mais je ne peux pas prescrire de traitement non plus, quoi.
Moi, j'aurais pensé à certaines crèmes, des choses comme ça. Pas du tout, en fait.
Pas du tout. Tout ce qui est médicamenteux, non.
Quelle est la part, sinon, dans votre activité, du temps de travail que vous passez sur les stomies, les plaies complexes, l'incontinence. Est-ce que ça, il y a une activité plus sur un type de pathologie ?
Une activité entre la stomie et la cicatrisation qui prédomine plus ou...
Oui, oui, oui.
Alors, j'ai plus de cicatrisation que de stomie. Ça, clairement, j'en fais beaucoup plus. Parce que, après, encore une fois, mon service veut que c'est des modes de prise en charge pour lesquels on prend les patients. Hein, clairement, le mode de prise en charge pansement complexe, c'est un mode de prise en charge en HAD. Et du coup, bah, effectivement, on a les patients où les blocs opératoires se sont mal passés, où on a beaucoup de pieds diabétiques, de patients vasculaires amputés. Voilà, c'est du gros pansement complexe, en fait. Hein, c'est des pansements d'une heure, une heure et demie en général.
Et vous travaillez du coup sur des plaies chroniques ou complexes ?
Oui. Donc tout ce qui est escarres, ça on en a aussi beaucoup. Les escarres, les ulcères, donc qu'ils soient artériels ou veineux. Et puis après, on a les amputations qui à la base sont aiguës, mais qui peuvent se chroniciser. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment les grosses plaies chroniques en général qu'on a en HAD.
Donc quand il y a le début d'une prise en charge compliqué, qu'on n'a pas vu, mais qui l'est sur le dossier, on aurait tendance à vous envoyer ?
Eh bien, oui. En fait, alors nous, dans notre, comment on fonctionne, c'est nos infirmiers de coordination vont avoir une demande, ils vont aller évaluer le patient, que ce soit au domicile, parce que le médecin traitant peut tout à fait faire une demande d'HAD. Donc, il va évaluer le patient au domicile ou dans le centre hospitalier. Il va voir si les conditions sont requises. Le médecin coordinateur dit oui, je peux le prendre, non, je ne peux pas le prendre, parce qu'on doit répondre à certains critères aussi. Et ensuite, dès qu'il y a une plaie, dès qu'il y a quelque chose d'un peu compliqué, hop, on me fait un message un petit peu spécifique et où on m'interpelle en me disant, faudra que tu ailles voir ce patient-là.
Ok.
Et du coup, vous avez des tournées régulières ou c'est plutôt du coup un suivi ? Vous suivez combien de temps à peu près les patients ?
Alors ça, c'est très compliqué parce que là, actuellement, par exemple... Alors moi, j'ai créé le poste hein, là où je suis. Donc concrètement, j'étais toute seule au début. Maintenant, on est trois, on va peut-être tendre vers quatre. On a le secteur de Lille, Arras, Béthune. Donc c'est un secteur très étendu. On a en moyenne à l'HAD 600-650 patients à gérer à trois. Donc forcément, ils n'ont pas tous des plaies, on est bien d'accord, ils n'ont pas tous des stomies. En moyenne, à 3, on a 160 patients.
Okay.
Donc, concrètement, on fait le point sur les dossiers, déjà. On voit, on trie par urgence. Qu'est-ce qui est le plus urgent ? Un patient qui a des stomies ou des fistules, parce que ça, je vous en ai pas parlé aussi. Mais les fistules où ça coule dans tous les sens, où le patient, il est brûlé de partout, ça, c'est hyper important d'y aller tout de suite, en fait. Donc, ça va être beaucoup plus urgent.
Okay.
C'est quoi vos rôles propres, du coup, dans la prise en charge de ces patients ?
Le rôle propre est le même rôle. Alors, il ne faut pas oublier, on est infirmière stomathérapeute. Donc, on a le même rôle que l'infirmière. D'accord ? Ça, il faut vraiment... On n'est pas médecin. On a vraiment le même rôle. Donc, ça, c'est tout. Après, effectivement, on va peut-être faire plus le point sur les patients stomisés, sur le bilan, qu'est-ce qu'ils donnent par rapport... Est-ce que c'est une ilée ou une colo ? Qu'est-ce qu'on doit surveiller ? C'est ces choses-là, en fait, hein, où on va être plus pointilleuse, plus assidue à surveiller, alors que quand on prend de manière plus générale, j'ai envie de dire, le patient, on va peut-être moins s'attarder sur ces choses-là.
Et vous vous occupez de quel type de plaies, du coup, on a parlé déjà de quelques-unes, mais en général, du coup, les pansements et les plaies sur lesquelles vous vous occupez ?
Alors... Ben, en général, donc on va repartir une par une, hein, si vous voulez. L'escar, ça, c'est le number one du patient alité polypathologique. Donc, on en a quand même pas mal. On fait aussi, il faut savoir, on fait énormément de soins palliatifs. Donc, forcément, il y a aussi les plaies de fin de vie, hein, qu'il faut prendre en compte. Et ça, c'est souvent très compliqué et on est très souvent interpellé, même si on ne va pas changer grand-chose. Que ce soit en soutien aux patients, aux familles, mais aussi aux soignants qui vont au domicile. Parce que pour eux, c'est compliqué de dire ça ne cicatrisera pas, ça s'étend de jour en jour, et ça, c'est difficile pour eux. Donc, quand on est dans une prise en charge palliative comme ça te plaît, faut pouvoir pallier, en fait, justement. Donc, on a les escars, effectivement, avec la prise en charge globale, nutritionnelle, la décharge, le nursing complet, la prise en charge de la douleur. Donc, il y a tout ça qui se goupille. Les ulcères, pareil, hein, on va partir sur la même chose que l'escar, mais en se préoccupant du est-ce que c'est veineux, est-ce que c'est artériel, est-ce que je mets une contention ou pas, est-ce que je redemande des dopplers, on va essayer de suivre cette intégralité d'examen pour le patient. Et après, nous, en fonction, on réadapte le pansement à chaque fois. Donc, escar, ulcère, c'est pareil. Après, je ne sais pas, il y a quoi d'autre. Les amputations, je vous l'ai dit. Le pied diabétique avec le côté infectieux aussi, des choses à surveiller. Les plaies post-opératoires, parce que ça, c'est pareil. Hein, les plaies post-opératoires, on en a aussi, hein, avec des laparos qui sont complètement ouvertes ou des abdomens complètement ouverts, ça, on a aussi. Vous pouvez vraiment avoir de tout. Et après, on a les plaies tumorales aussi, qu'on n'expose jamais trop, mais au final, qui est aussi une vraie problématique. Donc, voilà. Il y a vraiment un panel très, très large. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en HAD, ce n'est pas le petit ulcère. C'est le pansement qui prend du temps, en fait, qui est assez volumineux. Ou alors, il peut être petit, mais récurrent. Il revient. Donc, c'est de trouver la stratégie thérapeutique, quelque part, de comment on va le prendre en charge pour qu'il ne revienne pas, en fait.
Qu'est-ce que vous appréciez dans votre métier, finalement ? C'est cette diversité, non ?
C'est ça. C'est exactement ça, c'est le fait que, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas une journée pareille. Il n'y a pas une journée pareille et on rencontre... alors parfois c'est difficile, hein, mais je pense que ça c'est comme à l'hôpital, on rencontre des gens plus ou moins sympas. Et puis il faut savoir que le patient il n'est pas bien au moment où on va le voir aussi en fait. Donc, mais oui, tous les jours c'est surprise, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui ?
Vous prenez en charge des patients chroniques ?
Oui, alors, des patients chroniques. On ne peut pas les garder en HAD ad vitam aeternam. Hein. L'HAD, ça, concrètement, remplace une hospitalisation ou ça évite ou écourte une hospitalisation. D'accord ? Donc ça, le patient qu'on garderait en charge des années jusqu'au décès, on ne peut pas. Donc nous, on va le prendre en charge parce que c'est un patient paraplégique, par exemple. Je dis n'importe quoi, hein, comme pathologie, on a les spina bifida, par exemple, qui sont des patients chroniques, qu'on a très régulièrement pour de l'escar de plaies d'ischion. On va les prendre en charge pour la cicatrisation, on va réaménager le domicile, remettre en place les supports adaptés, faire intervenir au niveau social les assistantes sociales pour voir si elles peuvent mettre des aides en place, des choses plus pérennes que ce que le patient avait, parce que parfois ça se dégrade aussi, hein, les aides sont plus adaptées, pour ensuite faire un relais avec des SIAD, des infirmières libérales, les ergots de ville et tout, voilà, que le plan de soins soit adapté au moment où on se retire en fait.
Et du coup, en tant que stomathérapeute, votre but, c'est de rendre le plus autonome les patients dans leurs soins ?
Oui, alors ça, ce serait bien, ce serait merveilleux pour tout le monde. Sauf que y en a beaucoup qui ne veulent pas. Et puis, moi, à l'HAD, effectivement, en général, ils sont plutôt en fin de vie quand même. Donc, c'est compliqué de dire, allez, hop, on vous éduque et prenez tout en charge. A contrario, il y a des gens qui veulent et où le but, c'est vraiment ça, c'est de les éduquer et qu'ils puissent se gérer, en fait. Ce qui est toujours compliqué, c'est surtout pour les patients, on va leur dire « votre stomie, elle est provisoire ». Donc, quand c'est provisoire, il y en a beaucoup qui disent « c'est tout, j'appelle l'infirmière, elle viendra faire les soins ». Sauf que quand ils commencent à se réautonomiser, à vouloir aller au restaurant, à se dire « mince, si j'ai une fuite au restaurant », alors il y en a, ils se bloquent. Ils n'ont plus de vie concrètement, ils se bloquent, ils n'y vont plus, ils ne vont plus chez les petits-enfants ou ils ne reçoivent plus d'amis. Après, on a des patients jeunes. Hein. Moi, au cours de mon cursus, j'avais une directrice d'agence bancaire sur Paris qui avait 40 ans, qui s'est fait opérer. Elle n'avait même pas dit à son conjoint qu'elle avait une stomie ni quoi que ce soit. Donc, on part de loin quand même. Hein.
Et ça vous arrive, du coup, de travailler aussi avec des enfants ?
Oui, aussi. Alors, en plus, on a ouvert un volet pédiatrique, là, chez nous. Donc, oui, parce qu'on a, par exemple, des petits qui n'ont pas eu une perforation... je peux savoir le dire. Une perforation anale, donc ils sont nés sans anus, du coup ils ont une stomie de décharge. On a tout ce qui est les maladies inflammatoires aussi, hein, des intestins pour les petits. Donc oui, ça nous arrive d'avoir des tout petits. Alors on a des enfants de 3-4 mois, là, comme on peut avoir. Alors là, je pense à un ado qu'on a qui a 15 ans, qu'on prend en charge. Alors lui, pour tout à fait autre chose, par contre, lui, c'est de la plaie. Mais qui récidive et qui ne cicatrise pas depuis, alors lui, février 2024, par exemple.
En gros, c'est quoi la vie d'un patient avec une stomie ? C'est beaucoup de contraintes. Alors, j'ai bien entendu peur de la fuite, mais il y a toute une hygiène aussi alimentaire à voir ?
Alors, oui et non. Ça, c'est le grand débat de la nutrition dans la stomie, c'est compliqué. Vous avez pour les patients qui ont une colostomie par exemple, il faut déjà bien savoir les différences entre les stomies. Pour les patients qui ont une colostomie, il n'y a pas de régime alimentaire, c'est on mange ce qu'on avait l'habitude de manger avant. Pour les patients qui ont une iléostomie, alors très longtemps on a dit faut faire attention, faut pas manger ci, faut pas manger ça, et en fait quand vous refaites le point sur les services de nutrition, souvent les médecins nutritionnistes leur disent vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Et concrètement, après, c'est du bon sens. C'est de dire, je vois en fonction de comment ça passe. Il y a des gens chez qui, je dis n'importe quoi, ils vont manger des tomates, ça va être une catastrophe absolue. Et puis, il y en a d'autres, ça ne va rien leur faire. Donc, c'est vraiment ça qui est compliqué. Par contre, sur les stomies qui sont vraiment compliquées, c'est les stomies en grêle court. Donc là, il n'y a plus assez d'intestin pour absorber les nutriments. Et du coup, forcément... Ils peuvent toujours manger par la bouche pour le plaisir et puis parce qu'il faut. Mais concrètement, là, on va être relié à une alimentation parentérale. Donc ça, c'est encore autre chose, en fait, dans la démarche.
Pour que nos auditeurs nous comprennent, une alimentation parentérale, c'est ?
C'est une alimentation qui passe sur un NutriCat ou sur un PAC ou sur PICLINE, par exemple, mais pas par les voies digestives naturelles.
Alors, autrement... un petit peu tabou hein, ce que je vais évoquer, mais il y a tout le problème des flatulences aussi qui peut intervenir. Ouais.
Alors ça aussi, c'est compliqué parce que dans notre société, on n'est pas du tout prêt à ça, concrètement, en public. Et effectivement, c'est les flatulences, c'est l'odeur aussi. Hein, ça sent malgré tout. Alors il y a certains patients stomisés, une fois qu'ils sont bien éduqués, par exemple, là, si j'étais stomisée, hop, je serais allée aux toilettes, me changer avant, au moins je suis sûre, voilà. Mais effectivement, les flatulences, on ne peut rien y faire. Il n'y a pas de continence, il n'y a pas de sphincter, donc c'est tout. On ne peut rien faire là-dessus. Donc ça, c'est des choses, effectivement, pour le patient, c'est compliqué parce qu'il faut pouvoir l'accepter.
Il n'a aucune maîtrise sur la chose, pour le coup.
Il n'y a aucune maîtrise sur la continence du tout. Du tout.
OK.
Ça, que ce soit bien clair. Et la chose qui est aussi méconnue, c'est quand il y a une remise en continuité, l'incontinence, par voie naturelle, elle est présente au début. Et il faut un très long moment avant que ça revienne normal, en fait. Donc ça, souvent, on oublie de le dire aux patients. Parce que je pense, entre autres, par exemple, à des patients paraplégiques où on leur a mis une stomie. Et au final, quand on leur demande, on remet la continuité, là, ils vous disent non. Parce que, en fait, bah, eux, ils sont plus faciles à, c'est plus facile à eux, pour eux de se changer. C'est plus maîtrisable. Parce qu'au final, ils vont quand même avoir une incontinence par le bas. Donc, bah, ils se disent, ben non, vous ne me touchez pas, moi, je reste comme ça. Et c'est leur choix. Et en fait, je pense que ça, il faut vraiment pouvoir en parler de la qualité de vie après aussi.
Quelle est la proportion des patients qui souhaitent être finalement autonomes par rapport à ces stomies?
Alors moi, chez moi, concrètement, je pense que allez, il y en aurait 15-20%. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais encore une fois, on est chez des patients qui sont plutôt sur âgé. Du fin de vie. Pas forcément. Enfin, alors, moi, je trouve que l'âge n'a pas forcément de rapport parce que les gens de 80 ans, ils vont vous dire « je ne suis pas capable de faire ça ». Et moi, je leur dis « vous n'êtes pas plus bête qu'un autre, concrètement. Vous pouvez le faire ». Et en général, eh ben, une fois qu'on les accompagne, ils y arrivent quand même. Je dirais c'est peut-être limite plus les jeunes qui sont... Alors, soit ils sont dans la démarche de « je veux sortir, je veux reprendre ma vie » et ils y vont. Ou soit c'est l'inverse en disant « moi, je ne touche pas ça, je ne peux pas ».
Merci. Je vous propose une petite pause musicale. On revient tout de suite.
Ne les vois pas là où on passe de branche en branche. Ils veulent que nos vies se déplacent en rang. Surtout pas que leur et nos mômes dansent ensemble ou pire. S'amourachent et se fréquentent sans soupir.
Ils prennent nos grosses basses pour des tambours de guerre. Alors ils nous la font perchés sur le mic, on observe et ça les énerve. Tout ce qu'ils attendent c'est qu'on nous muselle et qu'on rentre dans le rang si possible à grands coups de paix.
Tu sais je vis de petits riens, leur gueule de petits saints. Veulent que moi le petit singe devienne un petit chien. Alors qu'ils fassent le beau, donne la patte et la ferme sans dire un mot, ils rapportent leur balle.
Est-ce nos écrits qui gênent? Est-ce une question de gêne? Une culture indigène qu'ils voient comme une chose indigeste. Non désolé, y a pas de gain sous ma veste. Juste un cœur qui bat, qui ne veut pas qu'on le prive d'oxygène.
En volant des 4x4 avec des grosses basses dans le coffre. On est ces bêtes à quatre pattes qui font changer les modes. Si on voulait, on pourrait même faire pencher le vote. De cette jungle, on irait jusqu'à fissurer le socle, ouais.
Ton fils aime nos sons de macaque. Ta fille aime nos sons de macaque. Leurs potes aiment nos sons de macaque. Alors mange-toi du gros son de macaque.
Ouais c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane.
Comme un cerf-volant, on veut prendre les airs. Ils se battent trop souvent, on nous somme de nous taire. Ouais, mais ça on sait pas le faire, ça les fout en colère. Alors leurs médias s'en prennent à nos sœurs et nos frères.
À l'époque on était ces ados, dans le métro, sautant les tourniquets. On a tué des guns, ah, on n'a pas tout niqué. C'est juste qu'on était jeunes, sauvages et libres. Nos cris résonnaient dans le quartier.
Laisse-moi te dire que nos vies c'est pas de l'eau de coco, poteau. Beaucoup voudraient bien nous attacher au poteau. Poteau, face à leurs bêtises, on brandit le stylo. Oh oh, on dirait que ça va pas s'arrêter d'aussitôt.
Coco, on change l'ordre établi, désarmé. Les mots, la mitraille franche. Pas de tape à l'œil, rien qu'une paire de Nike blanches. Qui va casquer l'addition des pots cassés. Diamants de Bokassa, eux se sont déjà placés.
Ils disent y'a trop de Zoulous sur les ondes. Trop de gars qui dropent des rimes comme ils dropent leurs bombes aux quatre coins du monde. À chaque seconde un gosse tombe et leur compte grossit. Oui, tout a un prix, freedom, démocratie.
Ton fils aime nos sons de macaque. Ta fille aime nos sons de macaque. Leurs potes aiment nos sons de macaque. Alors mange-toi du gros son de macaque.
Ouais c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais c'est moi le macaque.
alias. C'est moi le macaque, le hip hop et malia.
De retour dans les studios de Radio Eiffel en compagnie de Lucie, stomathérapeute. Prochaine question.
Alors moi j'aimerais vous demander, est-ce que vous voyez travailler dans ça toute votre vie? Est-ce qu'avec cette spécialisation, vous restez toujours dans le service par rapport à, avec cette spécialisation, ou est-ce que vous pouvez travailler dans un autre service et plus du tout exercer en tant que stomathérapeute?
Alors comme j'ai toujours mon diplôme d'infirmière, oui, je peux travailler un peu dans n'importe quel service. Hein. D'autant que dans mon parcours, alors je ne l'ai peut-être pas dit non plus, c'est que je fais aussi de la formation pour le coup aux étudiants. Donc oui, après je vais sur des congrès, effectivement, pour de la cicatrisation, pour de la stomie. Après j'ai eu un parcours de coordination, donc oui, je peux toujours revenir à un service, j'ai envie de dire, un peu plus classique. Mais
Vous ne semblez pas en avoir envie.
Non. Déjà, je n'ai pas très envie de retourner à l'hôpital, tout à fait honnête. J'aime bien un peu cette autonomie de l'HAD quand même, malgré tout. Alors, on est très réglementé, hein, on a les mêmes textes que l'hôpital, donc les mêmes textes d'hygiène, les certifications, tout est pareil, tout est exactement pareil. Après, on a quand même cette autonomie de dire je dois aller voir ce patient-là en priorité, celui-ci, celui-ci, celui-ci. Bon, il faut quand même tous les voir, ça, on est bien d'accord. Mais l'organisation de travail en soi, je pense que j'aurais du mal à retourner à l'hôpital. Mais on ne sait jamais.
C'est un métier où il y a de nombreuses évolutions, je suppose, au niveau du matériel.
Au niveau du matériel, oui.
Les laboratoires doivent être force de proposition et gratter souvent votre porte.
Vous devenez les amis des laboratoires.
Ah.
Vous devenez les amis. Alors, je dirais, en stomie, il y a effectivement beaucoup de choses hein, qui se développent de plus en plus, parce qu'avant, on était sur une seule gamme. Il faut savoir qu'au début, les patients mettaient genre un sac poubelle autour de leur stomie. Hein, donc, on part de loin quand même. Là, il y a vraiment plein de dispositifs possibles. Il y a vraiment 4-5 gros labos qui sont très connus en France. Après, il y en a d'autres qui se développent, qui tendent à se développer avec des innovations. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ensuite, vous avez aussi tout ce qui est les gammes de
les labos,
vêtements.
Ils viennent vous voir
directement. Les laboratoires appellent, prennent rendez-vous, nous présentent toutes leurs plaquettes tous les ans, toutes les nouveautés, à manipuler le matériel. Parfois, en tant que stomathérapeute, on est même... Alors, j'avais été chez un laboratoire qui est en France, pour le coup, et où ils nous ont fait visiter leur chaîne de production. Et où, on, justement, en tant que stomathérapeute, alors je pense qu'on était une vingtaine, à monter un produit avec eux, en fait. Pour les patients. Donc, c'était avec nos remarques. Voilà, si vous preniez une poche haut débit, qu'est-ce que vous mettriez? Qu'est-ce qui vous arrangerait qu'il soit dessus? Comment on peut faire? Voilà. Donc, c'était de prendre en compte aussi nos... Souvent, on fait partie des études. Des nouveaux dispositifs et où, question de satisfaction, qu'est-ce qu'il faut améliorer sur le produit ou pas?
Vous avez un pouvoir décisionnel au niveau du matériel avec lequel vous souhaiteriez travailler?
Alors, moi, là où je travaille, j'ai le droit de travailler avec n'importe quel labo.
Oh, la chance.
De la chance, hein.
Ah ouais.
J'ai de la chance. La politique chez nous, c'est on prend ce qu'on a d'abord. Et si on n'a pas, et que c'est pour le patient, que c'est pour le bien-être du patient, on le commande. C'est bien.
Je suppose aussi que vous voudriez les recevoir, vous pourriez faire ça. Vous voudriez tous les recevoir, vous feriez que ça de vos journées, non?
Oui, alors ma vie a changé il n'y a pas très longtemps, mais oui, je ferai que ça de toutes mes journées, concrètement, d'aller voir les patients en permanence. J'ai eu une période là où je pouvais beaucoup moins y aller et c'était compliqué, je l'ai même mal vécu. C'était vraiment le lien au patient que je voulais en fait. Donc oui, aller voir les patients, c'est le cœur du métier et c'est vraiment le plus important parce que c'est là où vous allez apprendre plein de choses.
Et du coup, quels bénéfices concrets vous observez chez les patients grâce à votre accompagnement?
Quand ils arrivent à être autonomes, ça, c'est la cerise sur le gâteau, ça. Je pense, entre autres, alors pour vous dire, j'ai eu un patient qui avait une quarantaine d'années, qui travaillait sur des plateformes pétrolières et qui s'est retrouvé avec une stomie urinaire, qui était en difficulté. Au début, il ne voulait pas du tout y toucher, c'était que sa femme qui devait gérer, mais vraiment, on avait l'impression d'un bébé, en fait, hein, géré par son épouse. Et il m'a dit, vous comprenez, moi, je suis jeune, je travaille sur des plateformes pétrolières, je ne peux pas faire ça, ma femme, elle ne va pas me suivre en permanence. Et moralité, on a réussi un peu à la fois en essayant. Alors, je lui ai essayé, je pense, une quinzaine de dispositifs différents. Hein. Au final, on a réussi. Et j'ai su par la suite, parce qu'il était suivi par la psychologue chez nous, pour quelqu'un qui ne voulait plus sortir du tout de chez lui, j'ai su qu'il avait porté la flamme olympique. Et je me suis dit, bah, ça, c'est vraiment... Enfin, quelque part, c'est une reconnaissance parce que... Alors, il ne me l'a pas dit directement, mais j'étais contente parce que je me suis dit, bah, dans son cursus, ce patient... Et ben voilà, il y a été. Pourtant, c'était pas gagné du tout. Hein.
Ouais.
Alors, vous recevez beaucoup de formations, mais je suppose aussi que vous formez le personnel infirmier au sein de l'HAD.
Alors, je forme mes soignants. Alors, c'est pas les miens de soignants, mais,
vous
je forme
dit.
Les soignants.
Vous l'avez dit, Lucie.
Mes souvent, je dis mes soignants. Je forme les soignants. Donc, je vais soit au domicile, au moment où je fais les visites à domicile, j'essaye aussi d'être avec un soignant. Alors que ce soit les soignants de l'HAD ou on travaille nous aussi avec des infirmières libérales ou avec les infirmières libérales pour leur montrer les bons gestes, comment on fait. Donc il y a ce cursus de formation aussi. Il y a parfois des temps de formation sur lesquels bah, je leur montre les nouveaux dispositifs, je leur explique comment on les utilise. Après, on fait aussi des formations, alors DPC, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, enfin voilà, pour DPC.
DPC.
Développement professionnel continu, je crois que c'est ça.
Okay.
Voilà. Et donc, c'est une formation sur 2 jours, sur tout ce qui est plaie cicatrisation, là, entre autres, et sur tout ce qui est technologie de cicatrisation. Donc, toutes les gammes de pansements, tout ce qui est les TPN. Vous savez ce que c'est, les TPN, non ? Ça ne vous parle pas ? Les VAC.
OK.
OK. Donc, les VAC. L'électrostimulation, le Getox. Le Getox, c'est un petit stylet qui fait un petit karcher, en fait, pour déterger les plaies sans douleur. Donc voilà, tout ce qui est... alors ça, c'est propre à l'HAD, hein, ou à l'hôpital aussi. Mais voilà, c'est de savoir utiliser à bon escient le matériel et comment on l'utilise, et les contre-indications. Ça, c'est important. Et les infirmières libérales qui travaillent avec l'HAD peuvent justement aussi bénéficier de cette formation. Après, ben, y a les congrès... sur lesquels aussi on interpelle, on réexplique. Alors bientôt, il va y avoir les ch'tis cicates, là, en plus. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant.
Pareil. Non, allez-y.
Les ch'tis cicates, c'est la semaine prochaine, 2 jours sur Arras, où c'est un congrès de plaies et cicatrisation.
OK.
Et vous avez tous les gens intéressés par la cicatrisation, que ce soit les médecins traitants, les chirurgiens, des pharmaciens, les infirmières libérales. Vous avez tous les laboratoires qui sont là et vous avez des thématiques qui sont abordées sur la cicatrisation. Donc nous, on va tenir un stand sur le pied diabétique, par exemple.
Félicitations. Voilà. Ça change Arras, quelle ville, hein ? Il y a 10 jours, ils étaient au festival du monde de la frite. Ils passent à la cicatrisation. Ils sont vraiment incroyables. Quels sont les messages clés quand vous faites vos formations que vous souhaitez transmettre aux soignants, j'aurais dit ? Est-ce qu'il y a des idées reçues pour lesquelles vous allez à leur...
Alors moi, il y a un message vraiment que je dis à chaque fois, que ce soit pour la stomie, que ce soit pour la cicatrisation, qui est très clair, c'est on ne prend pas en charge une plaie ou une stomie, on prend en charge un patient. Et ça, c'est hyper important. Comme je dis toujours en cicatrisation, on pourrait mettre une feuille de papier toilette sur une plaie, on cicatrise si on a tous les éléments requis. Vous avez une plaie, vous égratignez, vous allez bien souvent, vous ne mettez même pas de pansement, pour autant vous cicatrisez. C'est la prise en charge globale du patient qu'il faut voir. Et c'est ça qui est important, ce n'est pas de dire je change de protocole, je rechange. Et sur l'estomie, c'est pareil. C'est propre au patient, à sa globalité, à lui. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la télémédecine aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez ou pas dans votre métier ?
Alors, nous, on fait télémédecine et télésoins, on fait les deux. Donc, télésoins, alors c'est toujours avec un soignant de toute façon, où le soignant est au domicile du patient et filme ses soins en direct.
C'est un logiciel particulier, son propre portable ?
C'est le téléphone professionnel.
D'accord.
Donc ça, c'est important. Hein. Ça ne peut pas être... Alors, pareil, hein, les photos et tout, hyper important. Il y a une réglementation bien spécifique. Donc, c'est téléphone professionnel, pas d'enregistrement. C'est du live c'est direct. C'est du live direct.
Oui. C'est des patients plutôt autonomes, du coup
Non, pas du tout.
Okay.
Pas du tout. En fait, le soignant va avec son téléphone, il a un petit trépied où il va filmer ses soins. Il fait ses soins, donc au même moment, moi, je lui dis ce qu'il faut faire, pas faire. Je pose mes questions aussi au patient en direct, en lui demandant comment il mange, est-ce qu'il va sur son fauteuil, est-ce qu'il y a bien un coussin de décharge, enfin voilà, pour les patients qui sont autonomes ou qui peuvent répondre, hein, parce qu'il y a des patients qui ne peuvent pas. Et donc, je donne à ce moment-là mes préconisations en direct. Ça, c'est très pratique aussi pour moi, en toute honnêteté. Alors déjà, pour les patients, c'est plus rapide, parce que je peux en voir beaucoup plus. Ils ont un avis beaucoup plus rapidement. Et puis moi, bah, quand le patient habite à Auxil-Château, par exemple, de mémoire, le temps de faire la route... Alors moi, j'habite la frontière belge, vous voyez, de l'autre côté, du côté de Roubaix-Tourcoing. Et d'aller jusqu'à Auxil-Château, j'ai 97 km, donc je ne peux pas avoir 10 patients dans la journée à ce rythme-là, en fait. Donc on fait ça, et là, on le fait aussi avec un de nos médecins, Co, qui, du coup, donne aussi ses préconisations, et ensuite, on fait le lien au médecin prescripteur. Donc, on lui envoie une fiche type avec des photos, des dimensions, la prise en charge globale, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on surveille, et du coup, il sait si c'est intéressant de reconvoquer ou pas. Ça a très bien fonctionné pendant le Covid. Ça, c'était hyper intéressant. On l'a fait avec un chirurgien vasculaire. C'est à ce moment-là que ça s'est fort développé. Et parce que les blocs étaient stoppés, hein. Il n'y avait que les urgences. Et du coup, il ne reconvoquait plus du tout ses patients, sauf en cas d'urgence où il fallait revasculariser ou malheureusement amputer. Mais en tout cas, c'était que les urgences qu'il voyait.
Vous accordez combien de temps par semaine à cette télémédecine ?
Eh bien là, on a refait notre planning avec mes collègues. On a une journée complète de télémédecine en fait par semaine.
Si j'ai bien compris, il faut qu'un soignant passe. Hein. La condition.
Oui, il faut qu'un soignant passe au domicile pour qu'on voit le soin et qu'on voit la plaie en direct.
Ok. Vous vous intéressez à quoi finalement ? Aux berges ?
Tout.
À tout.
Alors oui, j'ai besoin de visualiser vraiment la plaie parce que effectivement, des photos. Un coup, on la prend de près, un coup, on la prend de loin. Enfin, c'est jamais pareil. Là, au moins, je vois ce que ça représente. Je vais pouvoir aussi dire au soignant, va mettre un stylet, regarde bien s'il n'y a pas une cavité, un pertuis quelque part. Donc, en fait, ça les oriente en plus pour les prochaines prises en charge. Donc ça, j'ai besoin de voir globalement comment c'est. Je n'ai pas l'odeur, on est d'accord. Mais par contre, je vois bien si ça coule, ça ne coule pas. Les gestes du soignant et puis d'avoir le lien direct aussi du patient. Mais ça aussi, c'est propre à l'HAD. D'avoir vraiment le contexte du patient à la maison, c'est très, très, très important. Vraiment.
C'est intéressant, cette transmission, en fait, pour quelqu'un qui serait vraiment passionné. Vous le dirigez, et puis, par ce biais-là, il sait comment vous procédez, en fait. Donc,
Et même,
le jour où il se retrouve seul, finalement, il gagne en autonomie grâce à votre guidage.
C'est aussi un
guidage.
Peu le but, effectivement. J'ai des soignants qui sont fraîchement arrivés. Hein. Je pense entre autres aux jeunes diplômés où je trouve qu'ils ont quand même du courage quand ils arrivent chez nous. Pas facile comme service en sortant du diplôme. Et pour autant, quand on leur dit tu vas voir un télésoin ou avec Lucie, donc ils arrivent, ils déploient tout. Alors ils sont un petit peu en stress hein, au début avec moi, ils ont peur. Et en fait, au fur et à mesure que je les guide, et limite, ils me posent aussi beaucoup de questions. Là, tu ferais comment ? Et donc, ça aide, en fait. Ça aide. Et quelque part, le patient, il se sent aussi rassuré de dire, c'est suivi.
Okay.
C'est pas n'importe qui passe à n'importe quel moment.
Et du coup, quelles sont les limites que vous voyez avec la télémédecine ?
Le réseau.
Ah oui ?
Alors, Arras, désolé. Hein, enfin, je dis Arras. Pas Arras même, mais notre gros secteur d'Arras, parce qu'on fait Arras, Bapaume, Saint-Paul, c'est assez vaste, hein, le territoire d'Arras. La connexion, c'est catastrophe, c'est compliqué. J'ai des patients chez lesquels le téléphone portable classique ne passe pas. On est encore sur le téléphone fixe. Hein. Donc là, il n'y a pas de choix, on se déplace.
Les patients, d'une manière générale, acceptent cette télémédecine ?
On leur demande toujours s'ils sont d'accord ou pas. On leur demande toujours s'ils sont d'accord. Et il y a certains patients où, au début, ils acceptent, et après, ils disent « Oh, bon, non. » Donc, ils veulent arrêter. Et parfois, alors ça, c'est quelque chose qu'on a relevé aussi, c'est que parfois, on les voit quasiment plus qu'en télémédecine. Et du coup, pour eux, c'est un frein. En fait, ils veulent nous revoir une fois en vrai entre-temps. Donc, quand ça fait un moment qu'on a refait de la télémédecine comme ça, hop, on le fait. Après, alors, au-delà des plaies, hein, chez nous, on fait aussi de la télémédecine en soins palliatifs. Et ça, c'est juste merveilleux, en fait, parce que les gens, ils sont chez eux, ils ont pu apprendre l'ambulance parce que les transports, ça les fatigue, pas possible. Et là, ils ont le médecin direct. Alors, on travaille beaucoup avec Oscar Lambré, par exemple, où ils ont le médecin d'Oscar Lambré en direct, notre médecin et nos infirmières en direct. Et je me souviens d'un patient qui fumait, il a dit, tu vois, ça, docteur, je ne peux pas faire dans ta salle de consultation. Mais il était chez lui, et voilà.
Vous arrivez à établir une relation de confiance, du coup, avec les patients, quand même, à travers l'écran?
Oui, alors les patients télé-expertise, télé-médecine, télé-soins, j'essaie quand même toujours de les voir au moins une fois avant qu'ils soient vus en télémédecine.
Et comment ça se passe? Vous orientez votre collègue infirmier, vous tapez un rapport sur le dossier informatisé et vous demandez, vous ne pouvez pas présenter les images puisque vous m'avez dit que c'était en direct au médecin.
Alors, je ne peux pas présenter les images vidéo parce qu'elles ne sont pas enregistrées. Par contre, on a un logiciel informatique sécurisé, interne, où du coup, avec le téléphone, il y a le logiciel aussi dessus. La photo est prise, est enregistrée sur le logiciel et directement mise sur le dossier du patient.
OK. Okay.
Donc, et là, on a ouvert l'accès aux infirmières libérales qui travaillent avec nous pour pouvoir mettre aussi leurs photos dedans. En amont, bien sûr, le patient a dû signer s'il est d'accord ou pas d'accord de prendre des photos. Voilà, ça, tout ça... Et en parallèle, donc après, je fais mon rapport informatique. Je fais un rapport avec une fiche pré-remplie où c'est beaucoup de cochage, des notions de bilan et la photo du avant-après. Pour le chirurgien, par exemple, il y a 15 jours, quand j'ai fait le télésoin, c'était comme ça. 15 jours après, c'est comme ça, avec le protocole. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a des choses à changer? Moi, je trouve qu'il n'y a pas de souci. Et en général, ils sont contents.
Et du coup, vous pensez que la télémédecine, elle va se développer davantage dans le métier d'infirmier, en globalité?
Je pense que oui. Je pense que oui. Après, il faut encore poursuivre à travailler les outils, en fait. Ça, c'est quelque chose encore à travailler.
Ici s'achève cette émission de Soins Sonores. Merci, Lucie, d'avoir partagé avec nous votre quotidien professionnel et merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Cette émission était animée par Alix et Bertie, avec à la réalisation Kevin. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Soins Sonores. Prenez soin de vous. Ciao.